Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans un sixième épisode d'A priori sur les ondes de Chiz 94.3. Nous sommes vos animatrices, Lorena
et Caroline. Et aujourd'hui, nous recevons Jeanne Duchesne et Estelle Galipo pour nous parler de la simulation francophone des Nations Unies à l'Université Laval, soit la CIFNUL. Donc, est-ce que vous voudriez vous présenter un petit peu?
Oui, ben oui. C'est ça, moi, je m'appelle Estelle Galipo. Je suis au Biaprix en troisième année. Je gradue là, au printemps. Puis, c'est ça, après la maîtrise, voilà.
Moi, c'est Sarah-Jeanne Duchesne. Je suis en deuxième année au Biaprix également et je suis coprésidente de la CIFNUL cette année jusqu'au mois de mai. Puis je suis là, une abonnée aux simulations depuis des années. Donc, je participe à la CIFNUL, mais j'ai également eu la chance de participer à des simulations internationales, dont la UpMunk, dont la simulation de l'Université de Philadelphie, également le McMoon plusieurs fois. Donc, j'adore les simulations. C'est vraiment là, dans mon sang.
Puis, d'où vient votre intérêt, en fait, pour les simulations?
Ben moi, je vous dirais, en fait, j'ai fait de la CIFNUL pour la première fois en première année du Biaprix. Mm-hmm. Puis, c'était ma première simulation à vie.
Mm-hmm.
Et j'ai pris goût. Tu sais, quand tu croques la pomme, après, tu la manges au complet. Là. C'est vraiment pas un proverbe, mais bon... c'est juste ça, puis j'ai aimé ça, puis à chaque année, je me développe. Cette année, c'était le CX.
Puis en fait, t'as fait combien de simulations là, avec la première année? Tu l'as-tu refait à la deuxième année aussi?
Oui, exactement. Okay. Je l'ai fait deux fois. Une première année, je représentais l'Équateur, l'autre, l'Inde.
Mm-hmm.
Et cette année, je suis au VP Finance de la simulation.
Incroyable VP Finance. Fait beaucoup de cash avec Estelle.
Ah oui.
C'est des blagues. On est une association, on est pauvre.
Puis est-ce que sinon vous avez comme d'autres implications dans d'autres comités? Est-ce que vous faites comme d'autres, justement, des implications autres que, mettons, dans la CIFNUL?
Mm-hmm. Ben, cette année, je suis coordonnatrice des finisseurs du Biaprix.
Oui.
Puis ça aussi, ça va super bien. J'ai un super comité. On fait plein de belles activités. Puis du financement, ça, c'est très bon, c'est très hot. Et sinon, de mon côté, c'est pas mal ça.
Pour ma part, j'ai été vice-présidente à la représentation des premières années à l'AEAPRI l'année passée. Puis également, là, depuis l'année passée, je fais partie du Parlement étudiant du Québec dans le caucus des Rouges. Donc, une autre super belle implication, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais oui, une autre simulation qui se rajoute là, à mon curriculum qui est vraiment... qui nous permet d'expérimenter le parlementarisme québécois dans ses rouages, le politique, procéduraux, etc. Là, on a la chance.
C'est une belle expérience, honnêtement. Là. Wow.
Ouais, on a la chance à chaque année là, d'être directement au Salon Bleu. Ben, là, au Salon Rouge cette année. Oui. Le Salon Bleu est en Renault. Là. Puis c'est ça, d'avoir des périodes télévisées. Fait que c'est vraiment un autre game. Là. Oui. Ouais.
Fait que vous êtes vraiment impliquée. Maintenant, si on rentre plus dans le vif du sujet, qu'est-ce que la CIFNUL, puis qu'est-ce qui distingue cette simulation des autres simulations offertes à l'Université Laval ou des autres simulations que vous avez eu l'opportunité de faire?
Ben oui, donc la CIFNUL, en fait, là, c'est vraiment l'unique simulation francophone des Nations Unies là, en Amérique du Nord sur le réseau des simulations. C'est traditionnellement les simulations des Nations Unies, quelque chose qui se fait en anglais. Il y a quelques simulations, comme par exemple à McGill, qui offre des comités bilingues, mais vraiment une simulation uniquement en français, c'est la seule. Et également à l'université, souvent les comités qui se créent autour des simulations, ce sont des délégations. Donc, ce sont des délégations de l'université qui quittent pour aller participer à des simulations. La CIFNUL, elle se passe à l'Université Laval. Donc, c'est vraiment une simulation locale où est-ce qu'on a à la fois un comité qui organise et des participants qui viennent de l'université, mais également du reste du Québec. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment ça qui la distingue. Et également, ben, c'est une simulation pour débutants. Donc, ça se veut une simulation introductive, pédagogique. Mm-hmm. Tout est fait, tout est adapté. On joue un peu avec le livre de règlement là, pour ça, mm-hmm. mais tout est adapté pour vraiment qu'une personne qui n'a jamais entendu parler du fonctionnement des Nations Unies, qui n'a jamais participé à aucune activité, que ce soit d'éloquence ou de négociation, de diplomatie. Mmh. Quelqu'un qui est complètement novice, quelqu'un qui n'est pas dans un programme de sciences sociales comme le Biaprix, puisse tout à fait là, avoir une belle expérience et formatrice.
Mmh. Puis sinon, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu là, des postes que vous occupez respectivement au sein du comité exécutif, puis des tâches que vous faites pour organiser cette belle simulation?
Ben oui, ben oui. Aux finances, ça va de soi. Il faut faire un budget, il faut s'occuper du compte et des subventions, comment dites. Cette année, j'ai fait de la recherche. Ça, c'est pas un rôle qui est tout à fait de finance, mais mm-hmm. je l'ai pris cette année. C'était vraiment la recherche de repas.
Oui.
Mm-hmm. Avec socioculturel, d'ailleurs. Mm-hmm. Puis, donc, on a mené ça à terme. On n'a pas fait de levée de fonds du tout cette année.
Mm-hmm.
Ça a été peut-être un peu plus absorbé dans les frais d'inscription, mais okay, ça, on va en parler plus tard.
Oui, exactement.
Mais c'est ça, c'était... C'est ça, budget... Est-ce que j'oublie quelque chose? Courriel pour les commandites, tout ça, dans le gouvernement.
Comme tu l'as dit, les vice-présidents sont des tâches, mais vous êtes aussi très versatiles, puis très polyvalents, par exemple. Estelle avait quand même un poste à responsabilité, puis elle a... à le démontrer, tu sais, beaucoup d'intérêt à comme s'impliquer et tout. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que quand on avait un besoin, etc., ben ça se retrouvait dans la cour d'Estelle. Fait que Estelle a vraiment été incroyable à ce niveau-là. Fait que, tu sais, ça a été, tu sais, recherche de logistique, les photographes, mm-hmm. payer nos fournisseurs. C'est vraiment, c'est quand on veut commencer à s'introduire au milieu du travail, s'impliquer dans des simulations, mm-hmm. s'impliquer dans des assos, on peut le sous-estimer des fois, mais c'est une extrêmement belle expérience à mettre sur un CV pour en parler. On pourra en reparler plus tard, là, mais ça c'est très formateur pour nous également. Là.
Ben oui, certain. Puis quant à toi, Jeanne, pourrais-tu décrire le poste que tu occupais, puis surtout que vraiment tu avais un rôle assez important pendant la simulation?
Oui.
Je sais pas si tu veux en parler un petit peu.
Oui, fait que moi, dans le fond, j'étais coprésidente, puis j'étais la coprésidente avec Héloïse Fleury, qui est également mm-hmm. Biapri, puis j'étais la coprésidente qui était responsable de l'organisation du contenu pédagogique et fonctionnel, un peu, je dirais, mm-hmm. de la simulation. Pas fonctionnel, mais Estelle, est-ce que tu aurais un qualificatif plus l'organisation de la simulation en tant que telle? Okay.
Ouais.
Donc, la simulation avait un volet plus logistique. Ça prenait, ça prenait l'alimentation, ça prenait le financement, les journées de simulation, ça prenait des gens pour accueillir, ça prenait des gens pour s'assurer que les repas allaient être servis. Moi, j'étais vraiment au cœur de l'action.
Sur le terrain.
Le terrain, donc... faire en sorte que on ait une thématique qui fonctionne, une gestion de l'assemblée, quelqu'un qui était là vraiment pour accompagner les délégués dans leur prise de parole, dans les travaux. Donc j'étais vraiment là comme un secrétaire ou un président d'assemblée mm-hmm. qui s'assure que les travaux vont bon train. Là.
Mmh. Puis sinon, ça me fait penser justement, il y a d'autres postes aussi là, dans le comité exécutif, mais chose à part, je me demandais comment vous avez fait le recrutement, là, mettons, des personnes comme le mentor. Cette année, on avait Louis, mmh. ou sinon aussi ben, à la présidence. Comment ça se passe, ce recrutement-là?
Oui, donc en fait, c'est sûr que c'est souvent là, des contacts au niveau des simulations. Mm-hmm. Fait que Louis, moi, j'ai eu la chance de le rencontrer au Parlement étudiant. Puis on a discuté justement de nos implications au niveau des simulations. Louis Saint-Amand, dont on parle, est vraiment là, une
référence.
Une référence au niveau des simulations. Ouais. J'ai rarement vu quelqu'un de mon âge avoir fait autant de simulations mm-hmm. et être autant reconnu dans le milieu. Mm-hmm. Donc, c'est ça, par des relations qu'on a pu se faire. On avait Louis qui est venu joindre à nous en tant que mentor. Puis pour ce qui est de notre présidence d'assemblée, qui était Miguel Covino, ben c'est ça, c'est quelqu'un qui est super impliqué dans les simulations à l'université, qui était dans le comité exécutif l'année passée. Donc, on avait approché quelques personnes là, qui étaient dans le comité exécutif de la SFNUL dans les années précédentes, puis qui connaissaient l'organisation pour venir présider notre belle assemblée.
Ben oui, c'est certain.
Puis, sommairement, c'est quoi les autres postes qui sont offerts dans le comité?
Oui, donc on a VP Finance, mm-hmm. Présidence, ça va de soi. Il y a VP Communication, mm-hmm. Externe, Socioculturel et, j'en oublie un, Journalistique.
OK. Puis, Journalistique, c'est quoi un peu la tâche qu'ils ont eu à, à faire durant la simulation, puis en préparation de la simulation?
Oui, bien, cette année, c'était Gabrielle qui était aussi incroyable. On a eu plein de beaux commentaires après la simulation, c'était vraiment le fun. en amont, lui, il prépare son sujet, sa crise, puis tout ça. Puis,
crise
il se
journalistique.
Oui, crise journalistique pendant la simulation. Il ne pète pas une crise en rencontre.
Il ne fait pas une crise de bacon avant que ça commence.
Puis lui, il montre son équipe de journalistes, qui étaient lui aussi ses contacts, ses amis, qui étaient aussi hyper impliqués. Puis pendant la simulation, c'est vraiment d'observer tout ce que les délégués font, tout ce qui se dit, tout ce qui est travaillé, puis le sortir des nouvelles informations qui sont dans les nouvelles, puis là, comme questionner les gens sur ça aussi. Puis la production de cette année, c'était des diplos, les diplos et les
paléopotins. Donc, le nom du journal de la simulation, c'est le Diplodocus. Mm-hmm. Et cette année, nouveauté, on avait les paléopotins qui étaient vraiment axés sur les commérages et le potinage.
Très intéressant.
Qui étaient faits entre démo, délégués. Merci.
Je pense que Gabriel a trop regardé Gossip Girl.
il y a vraiment, il y a clairement des références à ce niveau-là. Oui, surtout, mais ce qu'on voulait, c'est vraiment apporter un aspect là, multilatéral à la simulation, permettre aux délégués d'avoir des expériences variées. Donc, pas seulement être en assemblée, effectuer des travaux, mais aussi être en contact avec plein de points culminant de la diplomatie. Fait que la diplomatie, ça passe par les relations qu'on va avoir avec les autres délégués pendant la simulation, avec les instances de la simulation comme la présidence, mais ça passe aussi avec le quatrième pouvoir qui sont les médias. Donc, on voulait vraiment offrir une expérience multilatérale à nos délégués, d'où le fait que vraiment on a mis l'accent, parce que c'est pas nous qui avons inventé le journalisme, c'est quelque chose qui existe déjà à la CIFNUL, mais là, cette année, on l'a vraiment institutionnalisé, puis on voulait que ça prenne une place prenante là, dans la simulation. Puis comme Estelle l'a dit, ça a vraiment été une réussite à ce niveau-là.
Mais là, vous allez m'excuser, j'ai oublié un poste.
Oui,
c'est fou. CVP formation.
Oui, c'est vrai, formation et recherche.
Hyper important, mais il m'a passé en haut de la tête. Ouais.
Ce poste-là, c'est quoi qui fait, en fait?
Oui, donc cette année, c'était Anna Jovin. Et qui occupait ce poste, et elle a fait la rédaction d'un guide de délégués.
OK.
Et d'un guide de la formation sur le sujet et sur tout ce qui est déjà fait sur notre sujet. Puis.
Le site.
Ouais, le site aussi, Google Site, qui était. C'est sur ce site qu'il y a eu la formation et le guide du délégué et tout ce
qui est. Oui, c'est vraiment tout complet avec tout ce qu'on a besoin de savoir essentiellement là, sur la simulation.
Oui, il y a beaucoup de contenu dans ce site.
Oui, vraiment.
Je sais qu'il y en a quelques-uns qui s'y sont perdus.
Mais je pense que c'est quand même, pour l'ensemble, très, très apprécié parce que je pense que ça peut stresser quelques personnes de savoir comment ça se déroule une première simulation. Sinon, là, pour revenir au poste du comité exécutif, comment vous vous êtes amené justement à vous impliquer dans ce comité-là? Qu'est-ce qui vous a amené là?
Oui, ben moi, c'était, on peut dire que c'est un trajet personnel, très. Je sais pas comment.
Spirituel?
Oui, spirituel. La première année, c'était ma première année de bac, j'ai jamais fait de simulation. Je pense que j'ai fait un discours, puis j'étais très gênée. La deuxième année, je me suis plus
assumée.
Oui, exact. Puis j'ai fait beaucoup plus de discours, j'étais fière de moi. Là, j'ai dit, il me semble que la prochaine étape, c'est le comité exécutif.
C'était un nouveau défi.
Oui, c'était ça.
Puis toi, Jeanne?
Ben moi, c'était vraiment un aboutissement là, de ma carrière. Non, mais en vrai, c'est ça. Je voulais occuper un poste challengeant, pouvoir peut-être mettre ma marque. J'avais des idées aussi pour développer la simulation à l'université. La langue française me tenait à cœur de développer cette simulation-là. Je me suis dit que la CIFNUL, c'était vraiment l'endroit où est-ce que je pouvais, amener des nouvelles idées, développer le monde des simulations, puis aussi aller chercher là, des nouveaux défis au niveau de la gestion.
Puis tantôt, vous avez parlé du guide du délégué puis du site web. C'est quoi le travail qui se fait en amont? C'est quoi les préparatifs qui sont nécessaires, en fait, pour mettre sur pied cette simulation-là?
Ouf, bonne question.
Vous avez comme résumé en quelques petits points.
Pour cette année, là, on avait vraiment un plan stratégique qu'on avait énoncé, Hélo et moi, pendant les élections. Donc, vraiment, la première chose, c'est qu'on voulait institutionnaliser la CIFNUL et ses composantes. Donc, il y avait une charte qui existait, mais ça a été un peu désuète. Donc, vraiment, la première étape, ça a été là, de s'atteler à revoir, à reformer la charte. Des fois, on a créé certains postes, dont VP journalistique. Donc, c'était vraiment comme la refonte et la solidification de nos dossiers, de la charte, de nos commanditaires, de nos partenaires. Puis par la suite, là, ça a vraiment été là, de choisir là, la thématique de l'année, puis de partir là, sur un marketing autour de ça. Après ça, évidemment, ben, là, il y a eu le recrutement de nos participants. Puis finalement, on s'est attelé là, à ce que toutes les composantes de la simulation soient présentes. Donc, aller recruter des invités pour notre cocktail de réseautage, aller trouver le personnel pour la CIFNUL, donc les bénévoles. Puis c'est ça, la formation du site, la création du site pour former les participants. Donc, c'est vraiment là, un long processus qui se passe vraiment sur un bon 9 mois. Là.
Mm-hmm. Ben oui, c'est certain. Mm. Puis justement, pour revenir, là, tu parlais de recrutement. Comment se déroule le recrutement des participants? Est-ce que ça devient de plus en plus facile avec le temps, là, vu la publication sur les réseaux sociaux? Les publications, justement, qui sont faites sur le Instagram de la CIFNUL? Ou sinon, est-ce que c'est vraiment plus en allant dans les classes qu'on recrute les gens? Comment ça se déroule?
Ben pour l'avoir fait les 2 dernières années, je vous dirais que d'habitude, c'était spécial cette année. Moi, je l'ai vu au niveau des finances quand les participations rentraient. Il y avait les gens, ils s'inscrivaient très vite, ils payaient très vite, puis là c'était comme OK, attention, il reste 5 places, puis c'était vraiment très rapide la fenêtre de participation. Mm-hmm. Cette année, c'était un peu plus long, puis on a même réouvert les inscriptions à un certain point parce qu'on voulait plus de gens.
Mm-hmm.
Mais c'est sûr, le travail que Jeanne a fait sur les réseaux sociaux, c'est sûr ça a aidé.
Parce que le message s'est passé assez rapidement, justement, le compte Instagram, là, les publications, ça allait vite.
Ouais.
Mais c'est ça qui a fonctionné.
On voit un grand intérêt de la part des gens.
Ouais.
Ceci étant dit, les gens, des fois, il y a une appréhension de faire le pas, de sauter, de dire « Hey, je m'en vais faire une expérience, j'ai aucune idée dans quoi je m'embarque. » Ça, des fois, c'est un peu plus difficile. Mm-hmm. Fait qu'on a des gens qui démontrent un intérêt, puis sont comme « Oh, je l'aurais fait, mais...
Mm. »
Fait que des fois, c'est... On touche facilement les gens, on pique l'intérêt facilement, mais de convaincre les gens de se rendre jusqu'au bout du processus, c'est ça qui est un peu plus difficile. Puis également, cette année, on s'était donné le défi d'aller recruter des gens dans différents programmes, dans différentes facultés à l'extérieur de la faculté des sciences sociales.
Ouais.
Fait que ça, c'était, puis à l'extérieur de l'université aussi. C'est d'autres défis. Fait que le recrutement, je n'irais pas jusqu'à dire que c'est facile.
Non.
C'est pas facile, mais... ça nous permet là, vraiment là, d'aller chercher des participants de qualité qui sont prêts à sauter le pas. Mais c'est sûr aussi, il y a des limitations des fois, semaine de relâche, il y en a qui sont partis, qui retournent chez eux dans leur patelin. Fait que des fois, ça aussi, ça nous bloque un peu. Mais oui, là, on est en bonne voie, puis on a remarqué là, une augmentation au niveau des participations. Puis on va continuer l'année prochaine
Dans la même voie. Continuons d'avancer.
Comment est-ce que vous avez fait pour aller justement chercher des participants dans d'autres programmes? Est-ce que c'est plus comme Caroline l'a dit, en allant dans des classes ou c'était quand même par les réseaux sociaux ou en partageant?
Toutes ces réponses. On a vraiment varié les types de stratégies de recrutement. Mm-hmm. Écoutez, là, on a eu un kiosque de la rentrée, des posts LinkedIn, des posts Instagram, des présentations dans les classes, des courriels envoyés aux profs qui renvoyaient aux étudiants,
des présentations en classe.
Des présentations, ouais, exactement. Fait que, puis tout ça a porté ses fruits, étonnamment. Ben, j'avais les statistiques qui arrivaient, qui arrivaient devant moi, parce que quand les gens s'inscrivent, ils disent comment ils ont...
Ouais.
Ils ont entendu parler de la CIFNUL, fait que des fois, tu sais, c'était « Ah, oh, mon ami m'en a parlé », etc. Mm-hmm. Donc, toutes ces réponses, vraiment, c'est super varié. Tout ce qu'on a effectué comme stratégie de recrutement a au moins amené à eu 2-3 inscriptions. Fait que ça, c'est ultra varié, puis c'est ça, faut être 360, là.
Ah oh, oui, j'imagine, ben oui, c'est clair.
Puis c'est ça, tantôt, vous avez parlé de qui pouvait participer à la CIFNUL, donc... C'est pas mal tout le monde qui peut participer, de ce que je comprends.
Ah oui, oui. Puis même cette année, pour vous donner une idée, on en avait qui étaient en médecine, Et on en avait qui étaient en...
Génie. Nutrition.
Et il y avait quelqu'un qui venait du collège Mérissy.
Oui.
Pilotage d'avion.
Oui.
C'est super varié.
C'était vraiment ce qu'on voulait cette année. On voulait varier les profils puis montrer que ça ne prend pas une formation particulière pour être là. On avait des gens en doctorat, en géographie, en histoire, en études anciennes. Ouais. Mm-hmm. On avait vraiment de tout.
C'est ça, des gens aussi de l'extérieur. En tout cas,
oui?
Pour ma part, lorsque j'ai participé à la simulation, vraiment, mon collègue d'à côté, il venait du Saguenay.
Mais
comment ça se passait, justement, le recrutement là, dans les régions plus éloignées? Je ne veux pas vraiment... Je ne veux pas dénigrer la région du Saguenay, au contraire, mais c'est plus loin. Est-ce que vous êtes déplacé? Comment ça s'est passé?
On ne s'est pas déplacé.
Okay.
Des fois, c'est des participants qu'on connaît de longue date qui nous font de la bonne publicité. Mm-hmm. Ça prend une personne qui a un intérêt pour amener une petite gang d'amis. Fait que, on mise sur des fois des aides, mettons, financières pour le logement, etc. Comme cette année, on a pu se permettre de payer le logement de tous les participants qui venaient de l'extérieur, qui en ont fait la demande. Là. Donc,
c'est pas mal.
6 participants qui étaient en logement, qui étaient dans un hostel à Québec. c'est ça. Fait qu'on on essaie, c'est ça, d'encourager financièrement les gens parce que si tu t'embarques dans quelque chose, tu t'en viens à Québec, ça te coûte 300-400 $ et plus. T'sais, des fois, ça peut être décourageant. Mm-hmm. Fait que si on misait sur l'intérêt des gens qui nous ont vus passer sur les réseaux sociaux, t'es comme « Hein? » Pourquoi pas, je pourrais pas participer. Mm-hmm. Puis là, tout de suite, on allait les accrocher. Puis t'es comme, oui, ça va nous faire plaisir. On va vous loger, etc. Fait que là, ça encourage les gens.
Oui.
Puis on espère que l'année prochaine, le bouche à oreille va faire son œuvre.
Mm-hmm. Mm-hmm. Puis justement, là, on parlait tantôt des frais. Quels sont les frais d'inscription pour la CIFNUL, pour ceux que ça les intéresse?
Oui, je vous dirais que ça varie vraiment en fonction du CX, la personne aux finances.
Oui.
Parce qu'en fait, on fait un calcul de, mettons, ce qu'on aimerait mettre dans ce frais d'inscription-là, puis ce qu'on met pas dedans, ce qui va être absorbé par le CX. Cette année, c'était au départ 80 pour les nouvelles personnes qui participent et 70 pour ceux qui l'ont déjà fait.
Mm-hmm.
On ramène les gens un petit 10 $. Puis, pendant la deuxième ouverture des inscriptions, ça l'avait augmenté vu que c'était vraiment... juste avant la simulation, c'était rendu 100 pour les nouveaux. Non, 90 pour les nouveaux et 80.
Non, 100 pour les nouveaux, 80 pour les anciens.
Exactement.
OK,
oui. Oui, exactement. Donc,
c'est quand même assez abordable quand on compare avec les autres simulations là, qui sont offertes.
Notamment,
surtout qui demandent plus un déplacement. Là,
mais ce qui est inclus dans le frais cette année, c'était les 3 repas, le cocktail, les collations, le déjeuner, puis... toute la journée, les collations.
Toute la bouffe. Là. T'aurais pu ne pas faire ton épicerie pendant la CIFNUL.
Ouais.
Et on t'aurait nourri de A à Z.
Il restait beaucoup de lunch aussi.
Les gens repartent avec de la bouffe. Vraiment, toute la bouffe est inclue. Là.
Puis, cette année, juste mentionner ça comme ça, il y avait 2 repas que c'était des repas 100% zéro déchet.
Oui, aussi.
Ouais. Fait que ça aussi, c'est impliqué là-dedans.
Ça c'est un autre enjeu.
C'est un plus.
un autre enjeu. Dans le sens où... il y a certaines valeurs, il y a certaines attentes qu'on a parfois, nous, en tant que CX, parfois de la part de nos participants. Protéger la langue française, c'est quelque chose qui est super important de la part de nos participants. Fait qu'on francise tous les termes, ça peut prendre du temps. Mais le zéro déchet, faire attention à nos consommations. Cette année aussi, il y avait tout l'enjeu d'avoir des produits qui viennent du Canada.
Oui.
C'est toutes des choses qui font en sorte que, il faut sélectionner les commanditaires alimentaires, par exemple, qu'on voudra avoir, le type de conso qu'on va offrir. T'sais, est-ce qu'on se permet d'offrir du 7-Up, mettons? C'est une marque américaine. C'est une marque américaine, je ne sais plus, Pepsi, on se perd. Mais c'est ça, par exemple, c'est tout des éléments auxquels on doit porter attention.
Mm-hmm.
Des fois, ça veut dire comme, dépense un petit peu plus, etc. Fait que c'est de balancer tout ça. Là. Ça peut être... on fait de tout.
C'est vraiment varié. Mais tu sais, je pense que vraiment, c'est le fun pour les personnes qui vont s'inscrire de savoir qu'on a tout ça d'inclus. Justement, tu sais, puis c'est un bon 4 jours de simulation, mais on paye un prix qui est quand même relativement abordable pour tout ça. Justement, c'est vraiment le fun.
Tu sais, il n'y aura jamais... T'auras jamais ça ailleurs. Là.
Exactement.
C'est tel que tel. Il n'y aura jamais ça ailleurs. T'sais, moi, j'en ai participé. J'ai participé à des simulations. C'est jamais en bas de 600 $. Là. Mm-hmm. Puis on allait à Montréal. Là. On partait de Québec, puis on allait à Montréal 3 jours. Là. Ça nous coûtait 600 $.
C'est juste les frais d'inscription.
Les frais d'inscription. Nous, ça coûtait 600 $ de notre poche. Puis là, après ça, si ça nous tentait, la délégation pouvait organiser des activités de financement pour réduire les prix. Mm-hmm. Mais tu sais, 600 $ puis l'organisation en tant que telle avait, là, je parle de McMoon, là, mais l'organisation avait des commanditaires qui leur permettaient d'assumer une certaine partie des coûts. Si les coûts avaient été seulement assumés par les frais de participation, ça aurait été quelque chose d'astronomique comme, comme 1200 $ par participant. Wow. Fait que c'est quand même... C'est 600 $ pour aller à Montréal. T'sais, si on parle des simulations internationales, on parle des simulations à Philadelphie que j'avais faites, c'est des... C'est des 1000 $ quand on prend l'avion. Washington, avec l'OTAN, c'est à peu près ça. Encore une fois, là, les frais varient parce que des fois, ils font faire des activités de financement. Mais je veux dire, c'est dans les 600 et plus là, pour participer à des simulations. Là. Fait que 100 $ je veux dire, c'est lunaire. Là. Ouais. C'est rien, c'est rien du tout. Là.
Puis sinon, je me demandais là, comment un participant peut bien se préparer à la simulation. C'est quoi le travail qu'on peut faire en amont en tant que participant? Puis est-ce qu'il y a du matériel? Ben, on a d'ailleurs là, le site web qui était à la disposition des participants, mais comment qu'on se prépare essentiellement?
Ben, je pense que déjà, lire le guide du délégué, lire le site, déjà c'est un bon départ. Puis après, s'informer sur ton pays, le pays que tu représentes. Déjà, la première chose que tu vas voir, c'est Wikipédia. C'est le pays en général, parce qu'il y en a parfois, tu sais même pas c'est où, là.
Les nouvelles.
Ouais. Puis, donc, on part là-dessus. Puis, après, il y a la rédaction de discours.
Puis, est-ce qu'il y a comme du matériel que vous conseillez d'amener? Mettons, je sais pas, est-ce que, mettons, vous trouvez des articles gouvernementaux, ben là, on les amène, on les imprime et tout. Ouais.
Ouais. Ben, on peut repartir un peu plus loin que ça, tu sais, de la base, dans le sens où il y a vraiment 4 composantes à la simulation. Fait que la première, c'est la diplomatie. La deuxième, c'est les discours. La troisième, c'est la rédaction d'un projet de résolution, parce que ça prend vraiment beaucoup de place. Et finalement, les crises. Les crises, on peut pas se préparer. La seule chose qu'on peut faire, c'est bien connaître les politiques de son pays, bien connaître la position de son pays dans les relations internationales, bien connaître également les relations que son pays entretient avec les autres pays. Ça aussi, ça vient combler tout ce qui est connaissance nécessaire pour la diplomatie, à peu près. C'est, qui sont mes amis, qui sont les gens avec qui j'ai des frictions. On va dire ça comme ça. Par la suite, ben là, pour la rédaction de discours, ça va être de faire des recherches sur le positionnement plus au niveau là, du ton, des traditions d'éloquence, puis de relations internationales dans un pays. Est-ce que le pays est plus paternaliste? Est-ce que le pays est plus anticolonialiste? Est-ce que le pays est très vocal dans les enjeux internationaux? Est-ce que c'est un pays qui est plus en retrait? Après, on peut se permettre d'écrire des discours sur des enjeux en particulier qu'on aimerait aborder pendant la simulation. Puis finalement, ben évidemment, il y a les résolutions. Puis ça va être vraiment d'aller bien s'informer au niveau du guide du délégué, parce qu'écrire une résolution, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on fait dans le day-to-day.
Oui, en effet.
Ouais, donc, c'est de s'informer là, sur des technicalités. Là, par exemple, si on veut écrire une résolution sur comment protéger l'eau douce, ben aller s'informer sur les technicalités au niveau de l'océanographie, de l'hydrographie, genre de choses-là. Puis de bien comprendre le processus de rédaction, que les étapes, qu'est-ce que ça contient, c'est quoi les clauses, c'est quoi une clause préambulatoire, c'est quoi un préambule, c'est quoi une clause opérative. Fait que c'est toutes des informations qu'il y a dans notre guide, puis évidemment, imprimer le guide pour avoir ça à proximité là, ou l'avoir sur son ordinateur.
Pour bien les connaître, parce que tu sais, quand t'arrives pour faire la simulation, si tu connais pas les technicalités puis vraiment les règles de base, tu sais, ça peut être quand même déstabilisant de te lancer là-dedans.
Tu peux aussi apprendre au fur et à mesure.
Oui.
Ça se fait.
T'as même 4 jours de comme.
Ouais, exactement. Tu peux apprendre au fur et à mesure. Il y a des gens qui participent qui sont des gens qui ont de l'expérience en simulation, puis on vous accompagne aussi également. T'sais, cette année, j'étais directrice de la simulation, fait que c'était vraiment mon rôle là, d'accompagner les participants. Mais oui, là, c'est sûr que faire ses devoirs, ça aide beaucoup là, dans la préparation.
Ben oui, c'est certain. Alors sur ce, on va prendre une courte pause. On se retrouve dans quelques instants.
Donc, on est de retour sur les ondes de Chise 94.3. Les filles, je voudrais vous demander, quels furent vos ressentis ou vos premières impressions de la simulation quand vous avez participé pour la toute première fois?
En tant que déléguée, mettons-le.
Oui. Comme on a mentionné tantôt, moi, j'avais fait tous mes devoirs. J'avais lu toutes les formations possibles, puis j'avais tout vu sur Internet. Mm-hmm. Mais j'ai appris sur le tas. Puis ça s'est donné que la première année que j'ai participé, c'était surtout des gens qui l'avaient déjà fait.
Mm-hmm.
Fait que j'aurais pu lire tout ce qui était possible, mais j'aurais rien appris de ce que j'ai appris pendant la première simulation.
Mm-hmm.
Puis je pense que c'est vraiment un panel qui est comme vraiment important de ton éducation sur la simulation. Là. Parce que...
Mais ouais. Ben, je pense qu'on apprend beaucoup des autres aussi. Tu sais, comme mm-hmm. mon avou, ben, évidemment, c'était très important de s'informer. Mais
oui. Quand
on est entouré de gens qui ont fait beaucoup de simulations, je pense que c'est super pertinent de leur poser des questions et tout. Mm-hmm. Là, mais ouais.
Moi, c'est vraiment ce qui a fait ma formation puis mes simulations, ceux que j'ai faites avant au cégep, là, dont Upmunk là, à Philadelphie,
mm-hmm.
c'est vraiment les mentors. T'sais, une simulation, c'est les autres qui font de la simulation.
Mm-hmm.
Moi, j'ai eu la chance d'avoir deux mentors vraiment incroyables qui m'ont appris. D'un côté, le fonctionnement de l'assemblée, les discours, les prises de parole. Puis une autre déléguée là, très expérimentée qui m'a appris vraiment la rédaction, tout ce qui a trait à rédiger un projet de résolution. Fait que les autres, c'est vraiment une denrée importante et inestimable quand on arrive dans les simulations, surtout ceux qui en ont déjà fait. Puis, je dirais pour la simulation des Nations Unies de l'Université Laval, moi, ma première... Comment je me suis sentie, c'était vraiment un terrain de jeu.
Okay. Mm-hmm.
Parce que les simulations que j'avais faites auparavant, c'était tout en anglais. J'étais un bébé. J'avais 17 ans. Et les gens qui avaient autour de moi, c'était des gens de 22, 23, 24 ans qui avaient des masters en économie, de l'environnement et tout. Puis, tu te présentais, c'était comme « bonjour, moi je représente l'Inde, je suis l'université Claremont. Ah, moi je représente les Émirats arabes unis, je suis l'université Stanford. Ah, moi c'est Harvard. » Puis comme « Moi je suis le cégep Garneau. » Donc, c'est ça. Donc, tu sais, vraiment... D'arriver à la simulation, c'était plus petit, c'était en français. Mm. Fait que ça a vraiment été un gros terrain de jeu pour moi.
Mm-hmm.
Puis ça m'a permis, pour la première fois, de prendre ce rôle-là de mentor avec d'autres personnes. Puis c'est ça, de me sentir à l'aise pour une première fois comme un petit poisson dans l'eau. Là, Fait que ça a été une belle expérience. Puis on voit vraiment les deux côtés de la médaille que tu peux être super expérimenté puis arriver à la SFNUL puis avoir de l'espace pour pouvoir... prendre ce rôle-là de mentor pour pouvoir avoir un pays, un gros pays qui a des responsabilités des fois un peu plus marquées sur la scène internationale, dans les relations internationales. Fait que ça te permet de prendre cette place-là quand t'es expérimenté. Puis ça te permet aussi d'apprendre quand tu lis moins. Ça te permet d'arriver et de t'initier à la simulation. Fait que de tous les angles, il y a une plus-value qui existe à la simulation.
Puis sinon, là, c'est vraiment par curiosité, je me demandais comment se fait l'attribution des pays auprès des
participants. Ça, c'est Jeanne qui va vous dire ça. Moi, j'ai pas joué là-dedans. Étant
en comité exécutif, je me disais que donc, tu devais sûrement avoir une petite réponse.
Mais écoutez, c'est moi qui m'en suis occupée. Je me suis basée sur les expériences que les gens mentionnaient dans leur formulaire d'inscription. Fait qu'on demandait, est-ce que vous avez déjà participé à des simulations? C'est quoi votre intérêt pour la simulation? Est-ce que vous voudriez participer et être un membre du Conseil de sécurité, par exemple? Donc, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Puis, en se basant sur ces genres de petits CV-là que les gens nous fournissaient, moi, j'attribuais les pays. C'est sûr qu'on on a comme des gros pays, genre le G20, etc., où est-ce qu'on essaie d'aller chercher des personnes un peu plus expérimentées, le Conseil de sécurité encore plus. Quoique, il y a des gens qui ont fait le Conseil de sécurité cette année, que c'était leur première simulation.
Donc,
c'était vraiment la motivation des gens. On prenait pas les préférences personnelles.
Okay. Non,
non.
Mm-hmm. Ce qu'on a appris avec des expériences passées, que parfois, là, de représenter un pays qui est très proche de sa propre origine ou qui est son pays d'origine, ça peut créer là, des tensions, des frictions. Donc, on prenait pas les demandes spéciales, mais c'est ça, on essayait de, selon ce que les gens nous mentionnaient dans leur inscription, là, de leur attribuer un pays intéressants. Ils mm-hmm. sont tous intéressants.
Ben oui.
Mais ouais, c'est un pays qui représentait un peu leur manière d'aborder l'assimilation. Il y en a qui nous écrivaient et étaient oh non, je veux vraiment pas de pays. Je veux pas un gros pays. Mm-hmm. Je veux pouvoir prendre ça un peu, être un peu en retrait au début. Mm-hmm. Puis je veux pas que quelque chose dépende sur moi mm-hmm. et tout. Parfait, pas de problème, mon chéri, tu vas avoir le Liechtenstein.
Puis vous y alliez-tu aussi avec l'enjeu de cette année? Comme, est-ce que, mettons, les pays, c'était en fonction de l'enjeu ou c'était juste comme...
Je pense cette année, pas nécessairement, mm-hmm. mais il y a d'autres années que oui. Okay. Le CX avait décidé ça en fonction mm-hmm. de l'enjeu. Pour donner un exemple, Frédéric Gingras, qui est un dinosaure à la sif nulle, là, parce qu'il l'a fait, je pense, 5 fois. Oui. C'était là, il y a 2 ans, en 2023. Le thème, c'était l'exploitation sexuelle mm-hmm. et le travail du sexe.
Ouais.
Puis lui, il représentait l'Égypte.
Ouais.
Et dans son discours, il était très fort. Il a dit les travailleurs du sexe, c'est des sorcières. Il faut les brûler.
Okay.
Il était vraiment ouais. dans son personnage, mais en même temps, c'était un pays qui était lié à l'enjeu. C'était un délégué qui était très, très bon dans mm-hmm. son rôle. Mm-hmm. Et je pense pas que quelqu'un d'autre aurait pu dire les mêmes propos si ça n'avait pas été lui. Puis mm-hmm. il savait que ça reste un rôle, ça reste ouais. un jeu, un model des Nations Unies. Mais
puis on lui avait attribué ces pays-là. On avait mm-hmm. choisi des pays qui étaient très farouchement contre ouais. le travail mm-hmm. du sexe. Ouais. Des pays ouais. qui étaient très progressistes par rapport à ça. Fait que ça a été choisi pour qu'il y ait de la bisbille.
Ben oui. Oui. Puis sinon, je me demandais, là, est-ce que vous pourriez nous décrire, nous faire un portrait type de ce à quoi ressemblent les 4 jours de la CIF nul? Comment ça se déroule?
Oui, en fait, cette année, là, on a rajouté une journée à la CIF nul
mm-hmm.
okay. pour mm-hmm. se permettre d'organiser une petite cérémonie d'ouverture avec des orateurs. On avait la directrice des relations internationales au ministère des relations internationales. Fait que c'était vraiment très cool. Donc, c'est ça, on avait des orateurs, on avait des invités. Et par la suite, on avait un petit cocktail de réseautage. Ça, c'était le fun. Ça a permis aux gens de se rencontrer dans un contexte un peu plus informel avant l'assimilation, quoique il y avait des gens qui étaient déjà très investis dans leur rôle oui, de délégué. Puis après ça, la première journée, c'était vraiment le moment pour les gens de faire des discours d'ouverture, de montrer leur positionnement face à l'enjeu à l'Assemblée. Par la suite, il y avait des moments de rencontre plus informels pour la création d'alliances. Mm-hmm. Ensuite, ça a été le début de la rédaction des ébauches des projets de résolution. Mm-hmm. Donc, le projet de résolution, c'est vraiment le document, la manière dont l'Assemblée générale à l'ONU parle. Okay. Donc, c'est sa manière de s'exprimer. Une résolution, c'est pas contraignant, hein, mais une résolution, c'est un document politico-juridique mm-hmm. qui énonce un enjeu et des recommandations là, pour gérer cet enjeu-là. Nos délégués qui étaient regroupés en petits groupes, parfois des groupes régionaux, parfois mm-hmm. des groupes, on observait des accointances avec l'Union européenne, ce genre de choses-là. Donc, les délégués se regroupaient, on nous a remis des ébauches de résolution. Par la suite, là, on a eu des crises journalistiques oui. qui sont venues rajouter un peu de dynamisme mm-hmm. dans tout ça. Puis au travers de ça, les délégués continuaient à rédiger des projets de résolution, à fusionner des ébauches entre elles, parce que la direction de l'Assemblée était un peu cruelle, là, demander aux gens là, de limiter le nombre de projets de résolution qui allaient être remis. Puis c'est ça. Donc on a eu des moments de diplomatie, mm-hmm. des négociations très très poignantes et corsées. Puis par la suite, dernière journée, on avait la présentation des projets de résolution, des périodes de questions-réponses entre les rédacteurs et le reste de l'Assemblée, et finalement amendements, procédure de vote. Et petite cérémonie de clôture avec d'autres crises journalistiques entre tout ça pour permettre à la direction de corriger les projets de résolution.
Ben oui.
Parce qu'on n'invente pas du temps.
Non, ouais, c'est sûr. Puis je me demandais, est-ce que c'est déjà arrivé qu'il n'y ait aucun projet de résolution qui soit accepté au final? Parce que cette année, là, pendant cette édition, on sait que les 2 projets de résolution ont mm-hmm. été adoptés. Est-ce que c'est mm-hmm. déjà arrivé qu'il n'y en avait aucun?
De mes expériences, non, mais ça se pourrait très bien.
Ouais, hein?
Pas à la CIF nul, mais moi, ouais. ça m'est arrivé une fois.
Oh, okay.
Dans un comité sur le désarmement.
Mm-hmm.
Et c'était très polarisé au sein de l'Assemblée et il y avait également beaucoup d'abstention au niveau des votes substantiels, donc les votes sur les projets de résolution, ce qui a fait en sorte que les deux projets de résolution n'ont pas passé. Ouais, donc beaucoup de travail jeté à la poubelle,
ouais.
Quelques larmes de la part des grands rédacteurs. Mais oui, ça peut arriver. Ça peut arriver aussi qu'on s'assoit pour la procédure de vote et que la présidence annonce que on a, par exemple, deux projets de résolution et qu'il y a des clauses qui sont mutuellement exclusives, ce qui veut dire que les deux projets de résolution se contredisent et que ça fait en sorte qu'un seul projet de résolution va pouvoir passer. À ce moment-là, ben là, c'est toujours, souvent, on va tirer au vote pour savoir, on va tirer au sort pour savoir quel projet de résolution va être voté en premier. Et si ce projet de résolution-là passe, alors on ne votera pas l'autre parce qu'il est automatiquement, il est automatiquement refusé.
OK. Ouais, wow.
Exactement.
Puis ça, c'est jamais arrivé à la CFNL encore?
Non.
On sait pas pour les. Tu sais, la simulation est là depuis 2014.
Oui.
Mm-hmm. J'étais pas là en 2014.
Non.
J'étais au primaire.
C'est vrai, mais... moi, je suis en 6e année.
C'est ça. Mais ça se pourrait très bien. Il faudrait que je regarde si.
Mais dans
les potins, là.
4 dernières années, puis je pense. Ouais. Tu sais, c'est.
C'est rare.
C'est rare, puis c'est que on a une simulation pour les débutants aussi. Tu sais, on s'assure. On fait pas de corruption avec les votes, là.
Non, c'est ça.
Mais c'est sûr que c'est plus difficile là, c'est plus rare de voir là, des grandes polarisations très, très claires. Là, pis,
Diriez-vous que ça varie aussi avec l'enjeu qui est mis de l'avant?
Oh,
mettons, cette
oui.
session cette fois-ci, c'était l'accès à l'eau. C'était comme quand même un enjeu où les pays et les délégations avaient comme quand même un consensus, là, mais... C'est, mettons, pour les autres années, est-ce que vous voyez plus une différence à ce niveau-là?
Oui, vraiment.
Mm-hmm.
Puis, je vous dirais que cette année, le comité exécutif a décidé de prendre un sujet peut-être plus doux, la gestion de l'eau potable, c'est quand même très large, mais sur la forme de la simulation, augmenter le niveau de réalisme avec, d'ailleurs, le conseil de sécurité qui s'est formé.
Mm-hmm.
Donc, c'était peut-être ça l'idée, mais oui, cette année, gestion de l'eau potable. L'année dernière, c'était...
Le patrimoine
culturel. Et l'année d'avant, les travailleuses du sexe et l'exploitation sexuelle.
Mm-hmm.
C'est sûr, ça, c'était des sujets beaucoup plus polarisés.
Oui, oui.
Mais ça arrive qu'on ait des petits sujets plus doux, plus... Allons vers la paix et la coopération.
Ben, c'est ça, cette année dans l'actualité, l'année passée dans l'actualité à l'international, on a vu des gros enjeux au niveau de la sécurité internationale. On est vraiment... on a plusieurs guerres en simultané, ce qui est quand même préoccupant. C'est un autre sujet.
Ouais.
Mais donc, on s'est permis d'aller vers un sujet un peu plus... qui dévie un peu de ça pour s'assurer là, que tout le monde se sente à l'aise. Et c'est sûr que quand on a des sujets qui sont très chauds, des fois, ça vient chercher les valeurs personnelles là, des participants. Fait qu'on ne souhaitait pas, on ne souhaitait pas rentrer dans ce domaine-là. Donc, on est allé chercher quelque chose d'un peu plus consensuel.
Mm-hmm. C'est ça. Puis vous aviez aussi... il y avait les deux, il y avait la Russie puis il y avait l'Ukraine aussi dans cet enjeu-là de l'eau. Fait que c'était intéressant de voir que comme malgré les tensions actuelles, c'était pas comme le point culminant de la simulation puis que ça permettait comme d'explorer d'autres avenues aussi. Mm-hmm. Là.
Ce qui aurait pu l'être si, par exemple, on avait créé un SPECPOL qui est un comité spécial là, sur la sécurité.
Ouais.
Là, à ce moment-là, ça vient chercher... Ça vient chercher les émotions.
Ouais,
là.
Ouais.
Ça aurait pu... si, par exemple, on avait parlé du désarmement, du désarmement nucléaire ou ce genre de choses-là, ça aurait pu créer des accros parce que des fois, les gens sont tellement dans leur rôle que ça vient émotif.
Ouais.
Fait que c'est ça. C'est pas ce qu'on souhaitait cette année.
Mm-hmm.
Mais c'est pas... Je veux dire, ça a été après de longues discussions du comité exécutif. Mais le prochain comité exécutif pourra avoir
une vision
complètement différente des choses.
Mm-hmm. Ouais. Puis justement, là, en lien avec ça, comment vous déterminez l'enjeu, là, ben, comme la thématique pour l'édition là, suivante, exemple d'ACFNUL?
Mm-hmm. Ben, cette année, pour faire du pouce sur ce qu'on vient de dire, là, c'est ça, comme on voulait... Héloïse et Jeanne, dans leur proposition, quand ils se sont fait élire, c'était entre autres d'augmenter l'assimilation. Puis moi aussi, personnellement, je voulais qu'il y ait plus de gens, je voulais que ce soit plus dynamique et tout ça. Donc, on avait déjà parti avec cette idée-là. Puis après, le sujet, évidemment, c'était comme, bon, c'est sûr, si on prend un sujet polarisant, au Conseil de sécurité, il n'y a peut-être rien qui va passer. Donc, c'est peut-être des enjeux là-dessus. Puis on s'est dit, l'eau, la gestion de l'eau, c'est vraiment... C'est un petit sujet qui me parle beaucoup parce que ça touche vraiment tout le monde, tous les économiquement, dans les droits humains, ça fait partie des objectifs de développement durable, dans l'environnement, les changements climatiques. C'est comme c'est tellement englobant de la réalité actuelle que selon moi, c'était comme important. Je l'ai proposé, puis après discussion et négociation entre nous, ça, c'est ça qui est resté.
En fait, pas grosse négociation, on a tous été super, super emballés par la thématique que Estelle proposait. Puis aussi, ben cette année, on voulait aller chercher des gens à l'extérieur du programme. Des enjeux, des thématiques qui touchent des enjeux, par exemple, de sécurité. C'est très technique. Il y a beaucoup de directives. Ça touche le Conseil de sécurité, que lui, il a un pouvoir contraignant. C'est plus challengeant. C'est un plus gros défi pour des gens que ça va être leur première simulation. Alors qu'un enjeu comme, par exemple, la gestion de l'eau potable ou, mettons, la santé ou ce genre de choses-là, des fois, c'est plus facile là, de s'y retrouver puis de trouver sa place là, en tant que personne qui est novice là, dans une simulation. Ouais. Fait que c'est aussi ça qui a amené au choix du thème.
Puis c'est ça, tantôt, vous aviez parlé du fait qu'il ne faut pas nécessairement avoir des connaissances préalables en droit international ou en relations internationales, mais dans le guide du délégué, c'était comment est-ce que vous ameniez, comment est-ce que vous avez fait pour simplifier un peu tous les gros termes compliqués pour les participants?
Il y avait un lexique.
Un lexique, OK.
Un lexique. Il n'y a pas le choix. À un certain point, on ne peut pas tout simplifier. Il y a une limite à ce qu'on peut simplifier. Fait que des fois, ça va être vraiment d'avoir des outils, de la répétition. Fait que d'avoir plusieurs places où est-ce que les choses sont dites. Mais des fois, il faut aussi... On est quand même tous à l'université. Là, on a tous déjà fait de la lecture. Là, à un moment donné, il faut s'asseoir puis faire comme... OK, mais là, si je comprends pas ça, je pose des questions, j'ouvre mon dictionnaire, puis on en jase. Fait que oui, il y a un peu de gros travail de simplification, de catégorisation, de chronologie qui a été effectuée pour que ce soit le guide du délégué ou le site Internet. Fait qu'on a multiplié les sources que les gens pouvaient aller consulter également. Mais oui, à un certain point, il y a un niveau auquel on peut pas... à un moment donné, on peut pas se sauver de certains points techniques. Fait que c'est... La stratégie, ça a été de vulgariser, de répéter, de multiplier les sources.
Puis après ça, mettons, pour quelqu'un qui voudrait aller plus comme dans la position de son pays, est-ce que, mettons, aller dans le site de l'ONU ou checker des résolutions ou des trucs qui ont déjà été dits, ça pourrait être comme pertinent pour cette personne-là?
Puis même si le pays a un site, le gouvernement a un site, aller voir les lois puis tout ça du pays, peut-être parfois c'est intéressant. Sinon, les discours qui se font.
S'inspirer un peu du ton du discours.
La bibliothèque des Nations Unies, dont je ne m'avancerai pas à prononcer le nom parce que c'est en finlandais ou en suédois, je suis désolée. Mais la bibliothèque des Nations Unies là, en ligne est un excellent outil. En plus, quand on se connecte dans les heures d'ouverture européennes, faut le savoir, hein, parce que si vous vous connectez à 20 heures pour faire votre travail, il y a des grandes chances que tout soit fermé. Là. Mais on peut chatter avec des recherchistes sur le site. On peut leur demander, on peut leur dire « Bonjour, je vais participer à une simulation des Nations Unies, je vais présenter le pays. Est-ce que vous pourriez me sortir les 10 dernières déclarations officielles, discours effectuées par le délégué, la délégation par rapport à tel enjeu? »
Wow, c'est dommage pratique. Je pensais pas qu'il y a sur le live.
Oui, on peut faire ça. Fait qu'on peut demander ça. C'est vraiment des belles sources. Je le dis pour ceux qui sont en relations internationales, pour des travaux, ça vaut de l'or pour les correcteurs. C'est des sources primaires. On adore. Les nouvelles. Les nouvelles aussi, là, savoir qu'est-ce qui se passe dans le pays. Sinon, comme Estelle l'a dit, Wikipédia, c'est pas tout acheté à la poubelle. On veut connaître la démographie de son pays. Moi, j'ai déjà présenté le Chili. Un enjeu au Chili, c'est les populations autochtones. faut le savoir. Il faut savoir si le pays a récemment modifié sa constitution est en discussion pour modifier des lois, des constitutions. Oh, il y a un enjeu au sein de ton pays. Ça se peut que les journalistes viennent te poser des questions. Ouais, donc c'est ça. Fait que, tu sais, il faut connaître la démographie de son pays, il faut connaître les enjeux qu'il y a au sein du pays, il faut connaître la position du pays sur la scène internationale. Donc, ouais, c'est toutes des choses. Puis le truc, moi, que je donne, c'est la feuille de notes.
Oui.
Une feuille synthétique avec
les
points clés. Une feuille, t'en as assez pour 4 jours. Vraiment, une feuille avec des points clés. C'est parfait.
Puis, dans une perspective un peu plus introspective, est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter ou des trucs cocasses qui se sont passés dans des simulations que vous avez faites?
Oui, ben je peux vous en donner une. On parlait de savoir son pays puis les positions. L'année que je représentais l'Inde, le journaliste m'a demandé quelle était notre opinion parce que là, l'Inde venait de bannir la barbe à papa. Il nous a demandé c'était quoi, qu'est-ce qu'on allait faire pour contrer ça. Là, sur le coup, je n'avais jamais vu ça dans les nouvelles. Là, j'ai recherché. C'est peut-être arrivé le matin, puis je ne l'ai jamais su. Oh, mon Dieu, là, c'est comme l'improvisation. Nous allons faire tout ce qui est à notre devoir et les criminels seront arrêtés. Et,
contrer ce fléau.
Contrer le fléau de la barbe à papa.
Je pense que c'était parce qu'il y avait un... C'est les colorants, je pense, dedans. Il y avait de la cochenille ou quelque chose comme ça.
Quelque
là.
Chose de cancérigène
peut-être, ou qui rentrait pas là-dedans.
Mais l'improvisation parfois aussi, là, c'est fort.
Ouais, oui, j'imagine c'est un peu comme la passe du pas de taille là, de cette année. Là.
Peux-tu raconter?
Oui. Mais en fait, c'est comme mon collègue de la Thaïlande. Il s'est fait poser la question là, si la Thaïlande allait changer son plat national parce que ça consommait une quantité astronomique d'eau potable. D'eau. Ouais. Il était vraiment. Il s'est fait mettre sur le spot vraiment. Fait qu'il a dû répondre en improvisant un peu comme Estelle. Il s'en est bien sorti, mais je pense que c'est. Je pense que c'est un petit inside joke qui va rester pendant un petit moment parce que je pense que le paléopotin en avait parlé là, justement.
Exactement. Non, moi j'ai une anecdote plus, mais je l'ai racontée aux participants, mais je peux le raconter à l'antenne. Il y a une belle leçon en plus à la fin. Donc première simulation, c'était à Philadelphie. Je ne sais toujours pas à ce jour comment j'ai fait pour me rendre là, parce que vraiment j'étais pas la plus qualifiée pour me rendre là. Mon anglais était encore un peu en développement, on va dire ça comme ça. Et je me suis retrouvée avec des gens extrêmement qualifiés. Donc, comme je disais tantôt, c'est des gens de Stanford, de Harvard, qui étaient dans mon groupe de rédaction. Donc, moi, me sentais petite dans mes souliers. Et parlant de souliers, j'avais des talons hauts, beaucoup trop hauts pour ce que j'étais capable de porter. Donc, je me suis retrouvée nu-pied à marcher dans les rues de Philadelphie parce que j'avais des ampoules et je ne me pouvais plus. Et un des délégués m'a gentiment dit « Ah, you are barefoot. » Est-ce que tu veux que genre je te porte ou je sais pas trop quoi? Mais moi, j'ai vraiment arrêté sur barefoot. Et si on prend la traduction littérale de barefoot, ça voudrait dire pied d'ours. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire être nu-pied. et moi, je pensais que ça voulait dire d'avoir des pieds d'ours. Donc, moi, je me suis lancée dans une discussion avec le délégué pour lui expliquer que moi, j'ai trouvé quand même assez mignon mes pieds. Puis que, il était pas poilu comme des pieds d'ours. Jusqu'à ce que tout le monde comprenne que j'avais vraiment pas compris. Et ça a été vraiment un gros fou rire. Et je me suis vraiment ridiculisée dans le sens où, comme ça démontrait vraiment à quel point j'étais pas nécessairement la plus qualifiée pour le rôle. Et j'aurais pu vraiment me renfermer puis être gênée de ça puis pas prendre ma place. Mais au contraire, j'ai dit, c'est pas plus grave que ça. Il va en avoir d'autres. De toute façon, j'y reverrai sûrement jamais dans ma vie. Et j'ai continué ma simulation malgré tout, malgré cette anecdote. Et j'ai eu... une super belle simulation. Bon, c'est pas la fin du monde, mais...
Mais ça a brisé la glace,
ça a brisé la glace, vraiment. Là. Moi, j'étais petite dans mes souliers.
Puis c'est des expériences qui sont marquantes aussi. Tu t'en souviendras toute ta vie de ta première expérience comme ça.
Puis en guise de conclusion, est-ce que vous pourriez nous faire un petit pitch de vente à nos auditeurs qui songent peut-être s'inscrire à la prochaine édition de la CIF Nul l'an prochain?
Oh boy! Au-delà de tout ce qu'on a dit, oui. Moi, je vous dirais juste que faites la simulation. Moi, je ne serais pas la même personne si je n'avais pas fait la simulation parce que j'ai fait un speech pendant la crise journalistique ma première fois. Puis là, j'étais comme, oh, ça va. Fait que je ne serais pas ici aujourd'hui si ça n'avait pas été ma première simulation.
Une simulation, ça va te faire développer des qualités que tu ne peux pas développer ailleurs. Tu as l'opportunité de venir te tromper autant que tu veux dans un cadre éducatif. On ne peut pas... Moi, nommez-en-moi là, des places où est-ce qu'on peut faire ça, il n'y en a pas beaucoup. Fait que c'est développer des qualités d'oratoire, des qualités oratoires, de l'éloquence, de la diplomatie, de la rédaction, de la rédaction juridique, avoir de l'entregent. Puis, du moment où est-ce qu'on s'implique un petit peu plus, tu vas pouvoir mettre sur ton CV, hey, j'ai 2 ans d'expérience en événementiel. Ou oh, j'ai 2 ans d'expérience en gestion. T'sais, ça ne s'invente pas, ça. C'est pas parce qu'on n'est pas payé que ce n'est pas des belles expériences. Et un pitch de vente, moi, ça le fait partie de mon pitch de vente lors de mon dernier emploi, lors de ma dernière entrevue d'embauche. Et j'ai passé 30 minutes sur les 1 heure avec le recruteur à parler de ma participation à la dernière simulation des Nations Unies
universitaires. Pareil pour moi.
Ouais, et ça attire les gens, ça démontre l'intérêt qu'on a pour avoir des expériences, se dépasser, aller chercher, s'autonomiser dans notre éducation puis dans notre recherche là, des défis dans notre recherche de la connaissance. Fait que non, c'est vraiment un bel atout là, à mettre sur un CV. Puis après ça, ben ça fait un super beau tremplin pour aller participer à des simulations le plus importantes parce que, tu sais, on se le cachera pas, tu sais, la SIFNUS, c'est un super beau tremplin, mais après ça, il y a des simulations, tu sais, de haut vol, comme par exemple aller à l'OTAN ou aller à la SNUL à New York. Fait que c'est vraiment un très beau tremplin d'envol pour accéder à ça, là.
Sur le plan personnel aussi, ça vous permet de plus connaître vos forces, vos faiblesses, puis après ça, comme d'aller les exploiter.
Oui, vraiment.
Vous les filles, comment? Qu'est-ce que ça vous a apporté, la SIFNUS?
Moi, ça m'a permis de me dégêner un peu comme Estelle l'a dit, là, comme en général, là, dans ce genre de contexte-là, je suis plus réservée. Mm-hmm. Puis j'ai fait un premier speech, puis je me suis dit, ben tabarouette, c'est pas si pire que ça, en fait.
Faut juste faire le premier, hein,
exactement.
C'est ça?
Puis c'est ça, ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort, puis je le refais, c'est certain, là, la prochaine fois. Là, l'année prochaine, je pourrais pas, parce que je vais être en échange, mais après, c'est certain, vraiment, j'ai découvert que j'étais pas si gênée, puis que si c'est vraiment comme une belle expérience, tu sais, t'apprends à connaître plein de personnes, puis... Je sais pas, je trouve ça vraiment aussi intéressant de comme représenter un pays qui a pas forcément les mêmes points de vue que toi. Fait que vraiment, là, c'est comme tu fais un personnage, puis c'est ça.
C'est la meilleure manière d'apprendre.
Moi, ça m'a vraiment déstabilisée parce que je m'attendais pas du tout à ça. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé mon expérience. T'sais, ça m'a permis de voir, OK, je suis peut-être meilleure dans certaines choses, peut-être moins dans d'autres, puis comme de voir aussi comme où est-ce que je peux m'améliorer pour d'autres expériences. Fait que j'ai beaucoup aimé. Donc, merci beaucoup, les filles, d'avoir été avec nous pour cet épisode-ci. C'était A Priori sur les ondes de chez 94.3. À très bientôt!